Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag.
Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. Bienvenue à notre deuxième épisode de Fermenter par Baron Mag. Comme vous savez, c'est une nouvelle série qu'on a commencé avec des brasseurs. Pour discuter un petit peu de le côté houblon, discuter aussi de la levure, discuter un petit peu de leur travail en arrière de ça. Puis bien sûr, comprendre un petit peu la vision qu'il y a en arrière de la philosophie de la brasserie. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Hein? Je connais depuis longtemps. Je pense qu'un des premiers personnes que j'ai rencontré dans le milieu, quand on avait lancé notre premier livre avec des recettes de bière, il nous avait prêté une recette, merci beaucoup. Puis depuis tout le temps, écoute, moi j'ai, vous savez, mon amour pour la bière noire, la bière heavy metal, ça m'est dans mes top là-dedans, j'étais content qu'il était en canne, tout ça. Puis écoute, chaque fois que je suis allé là-bas, je me suis amusé, pinball machine, tout le kit, et bien sûr la pizza qu'ils font en plus, oh, pizza, bière, tout est là. So, aujourd'hui, on va parler de ça. Bien sûr, si vous avez des questions, toujours, leonardo@baromain.com. Notre but, nous autres, bien sûr, c'est de découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie brassicole, comme toujours. Abonnez-vous à notre infolette. Comme vous savez, on a commencé une infolette payante, puis ça va bien. Je ne m'attendais pas tellement de monde qui embarque, mais je suis bien content, merci beaucoup. Puis, bien sûr, si vous avez des questions, allez sur la section de Fermentis Baron Mag. Puis, on commence avec Sean. Comment ça va, Sean?
Ça va. Comment ça va, Léo?
Ça va. Sean, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. T'es pas bronzé pour aller au Mexique, hein?
T'es arrivé, c'est ton... Écoute, je suis quand même pas pire bronzé. Je te montrerai pas ma démarcation sur mon cul, mais je dirais que je suis pas quelqu'un qui bronze très rapidement. Je deviens rouge assez vite si je fais pas attention. Mais écoute, c'est parce que tu m'as pas vu avant, c'est pour ça.
Ah, OK. Parce que ça, je te vois ici, puis j'étais comme vraiment pas bronzé, là, tu sais. Mais c'est quoi, t'as amusé, t'as bu la tequila, la plage?
Un petit peu de mezcal, beaucoup de petites bières sur le bord de la plage. Puis c'est ça, quelques petites bières de microbrasserie par-ci et par-là, même s'il n'y en a pas des tonnes dans ce coin-là. Mais ouais, c'est ça. J'allais relax.
Est-ce que les Mexicains sont habitués à boire de la bière très légère, bien sûr, à cause de la chaleur? Hein? Est-ce que tu vois de nouvelles affaires qui se passent là-bas? Moi, j'ai eu beaucoup de cocktails de Mexicains. J'ai eu beaucoup de seltzer weird mexicains, des affaires au cactus, tout ça. Moins de bière, mais beaucoup de cactus juice, des affaires comme ça. T'as pas essayé des affaires comme ça?
J'ai honnêtement pas tant que ça. Je suis allé vraiment, c'est un voyage de décrochage en famille, fait que j'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour de ces choses-là. Mais j'ai vu une couple de microbrasseries Puerto Vallarta et dans les alentours. J'ai bu une couple de choses, des bons trucs, des Kolsch et Lager Blonde, mais aussi une PLL qui avait du bon sens. Mais j'ai pas mis d'effort trop à faire des visites. Là.
Excellent. Écoute, comme je disais, on te connaît depuis longtemps, on se passe souvent, l'expert dans l'industrie, tout ça. Mais avant de commencer ça, tu sais, la brasserie a commencé avec l'avant-garde depuis 2016 à peu près, à cette époque-là. Physiquement, comme tu me disais, c'est 2019.
2019, ça va faire le cinquième anniversaire à la fin du mois, en fait, pour la brasserie.
Comment tu te sens? Parce que je me rappelle quand tu avais nettoyé, j'avais été là-bas, comme au début de la fin du nettoyage peut-être, au début du nettoyage, c'est l'ancien Borealy avant.
Oui, non, c'était un bingo avant.
Bingo, excuse-moi. Puis je me rappelle que j'étais là-bas, vous voyez nettoyer avant qu'il arrive tous les équipements, puis tout le kit. Comment ça, depuis 5 ans, il y a plein de choses qui ont changé depuis ce temps-là, mais comment tu te sens après 5 ans d'avoir mis ça en place, d'avoir mis c'est une belle place avec une belle vitre partout, les bières continuent à être tout en bonne. Avec la pizza, qui en plus, vous avez une très bonne pizza, vous avez bien fait de faire un bon four, bien sûr. Mais comment tu te sens après 5 ans, malgré tout ce qui se passe dans l'industrie?
Ah, écoute, je me sens bien. Renaud et moi, les deux, on est fiers de ce qu'on a accompli dans tout ça. Je dirais que les 5 ans ont passé vite. Il s'est passé beaucoup de choses aussi, comme on sait. Mais oui, on ne voit pas le temps passer ici, on n'a pas vraiment le temps. Bon, de mentionner là, marché de la bière, c'est rock'n'roll, c'est des montagnes russes depuis une couple d'années. Puis, fait que ça nous garde sur nos pieds. On a la chance d'avoir un gros taproom ici avec une cuisine, un four à pizza et tout. Fait qu'on on est diversifié à ce niveau-là. On n'est pas juste à la merci du marché de la canette. Fait qu'on s'adapte, puis on travaille fort. C'est ça, on a beaucoup de pain sur la planche, puis on est content d'être où on est, puis c'est ça, mais on n'arrête pas de travailler, ça c'est sûr.
Bien, excellent. Écoute, comme je dis, ça fait longtemps que je te connais, je sais qu'il y a beaucoup de brasseurs qui me parlent de toi. Ils disent tout le temps que tu es un très vraiment brasseur, tu es vraiment un brasseur très, soyons honnêtes, très nerd dans tes affaires, tu es vraiment spécifique, on vient de te voir souvent parce que tu connais tes affaires, tu es vraiment comme... C'est pas qu'on voit des photos, mais tu fais tant des affaires vraiment, vraiment cool au bout. Déjà, avant qu'on. Ah, ben, c'est pas moi qui dis ça, c'est tout le monde qui dit ça. Mais tout le monde qui parle de toi et tout le monde dit non, Sean, c'est. It's a piece of shit, man. It's all good. So, dis-moi, quelle sorte de brasseur que tu sais, parce que tu sais, t'as travaillé dans des gros brasseries, dans des petites brasseries, tu viens d'une grosse école, tu sais. Ça fait longtemps que tu brasses, t'es quelqu'un, t'es très minutieux, comment tu travailles. Quelle sorte de brasseur que tu sais, quand vraiment dans le corps, tu sais, est-ce que t'es plus gosse, t'es plus analytique. Comment tu sors de brasseur que t'es, toi?
C'est une autre question. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me pose une question comme ça. Je te dirais que moi, si j'avais à me décrire comme brasseur, analytique, effectivement. Moi, en fait, dans la vie en général, comme pas juste comme brasseur, mais je suis un gars de projet, là, je suis un problem solver. J'aime relever des défis. Puis, je dirais que pour moi, tu sais, la bière, pour moi, c'est quelque chose à déguster, c'est quelque chose que j'aime profondément. Mais je dirais que je suis pas particulièrement attaché à certains styles de bière plus que d'autres. J'aime quand j'ai une idée en tête et quelque chose qui m'attire, j'aime aller jusqu'au fond des choses puis d'essayer de faire du mieux que je peux pour faire un produit intéressant. Je suis quelqu'un aussi qui est, je dirais, assez critique des mythes, là, tu sais, souvent dans le milieu du brassage, comme dans le milieu de la restauration aussi, tu sais, il y a souvent des modes, des fétiches, les gens accrochent sur quelque chose puis ils décrochent pas. Ça, je dirais que je suis assez critique de ça, puis j'aime bien aller contourner ce genre d'idées reçues-là quand j'en trouve.
Comme par exemple, avec quoi?
Je sais pas. Je dirais qu'un exemple de ça, c'est, tu sais, chez Avant-Garde, dans les dernières années, on a beaucoup, tu sais, je dirais que au sein de l'équipe en général, puis dans la business en général, tu sais, on s'est jamais limité dans les styles de bière qu'on faisait. On fait un petit peu de tout, là. On fait des IPA, on fait des lagers, mais on fait des stout russes, whatever, tu sais, comme, on est pas attaché à vraiment comme une tradition particulière, mais on aime beaucoup, beaucoup les lagers. Tu sais, on aime ça brasser ça, on aime ça boire ça. Tu sais, je pense que c'est dans l'air du temps aussi, on va se le dire. Mais il y a cette idée-là qu'une bonne lager tchèque, par exemple, c'est brassé selon la tradition, tu sais, puis que ta bière va être meilleure si tu fais comme ils faisaient en République tchèque au 18e siècle. Ça, pour moi, c'est le genre de choses que j'aime bien défaire. Je pense que, oui, la tradition, c'est important de retourner à la base pour moi, puis c'est important de voir comme quand tu brasses un style particulier, comme une lager tchèque, par exemple, de savoir qu'est-ce que c'était à la base, puis de comprendre ben, c'est quoi cette bière-là en te référant à l'histoire. Mais je pense que pour moi, c'est un leurre de dire que si tu utilises des techniques traditionnelles, ta bière va être meilleure. T'sais, je pense que la technologie évolue, on a des moyens de production qui sont différents qui étaient à l'époque. Puis j'aime bien ça remettre en question ces idées-là qui, à mon sens, sont pas toujours vrai. Fait que c'est ça.
C'est peut-être un peu comme le. Une fois, j'avais lu un article de, pour le monde qui aime le métal, hardcore, whatever, Ministry, le band. Le gars disait, lui, c'était un grand fan de musique classique. Parce qu'il disait, il aimait ça, comprendre la musique classique pour la détruire, puis il avait ça perfectionner sa musique. Vraiment, il voulait connaître le fond de la musique, pour aller après ça faire ses affaires à lui, tout en respectant ce qui est en arrière de ça.
Ouais.
Alors, faut aller dans ce coin-là. Puis toi, quand tu fais des changements de tes bras, tes bières, tu sais, vers qu'est-ce que tu t'en vas, c'est quoi les changements que tu fais tranquille, que tu fais en arrière de ça? Comment tu fais pour dire, OK, voici qu'est-ce que je fais comme Pilsner, comme Lager, tu sais, de base, puis je le change à mon goût. Comment tu travailles ça, toi? Qu'est-ce que tu mets, toi, comme extra? C'est quoi ta méthode de travail pour que ça soit bien, tu sais, ta touche à toi?
Je ne suis pas sûr que j'ai une touche. Là. Tu sais, je pense que ça dépend vraiment du style de bière que je vais faire. Mais tu sais, je dirais que... Tu sais, je reviens par exemple au Lager Check, puis tu sais, moi, tu sais, ma connaissance des Lager Check, c'est la même chose pour les stouts irlandais, par exemple. Tu sais, je ne suis jamais allé en Irlande, je n'ai jamais bu un stout irlandais d'un pub en Irlande. Fait que, tu sais, comme de savoir ce que ça goûte, puis d'essayer de faire exactement ça, pour moi, ben, ce n'est pas toujours possible. C'est le fun, tu sais, faire des voyages brassicoles puis tout. J'aimerais bien ça, aller en Europe, puis tu sais, d'aller me cultiver davantage pour pouvoir ramener ça. Mais jusqu'à un certain point, tout ça, c'est des actes d'imagination. Là, tu sais, je sais c'est quoi une Lager Check parce que j'ai vu des exemples qui sont brassés ici. Tu sais, j'ai une connaissance théorique de la chose. À partir de ce moment-là, ben, j'utilise mon imagination, pas juste la mienne, là, on travaille beaucoup en équipe ici. C'est ça, c'est aussi de connaître ses ingrédients, de connaître ce qui est disponible ici, de savoir aussi, ben, tu sais, je parlais de mode de fabrication plus traditionnel, ben de savoir que okay, ben, la Lager Check, elle se faisait d'une certaine façon en 1850. Whatever, à l'époque, traditionnellement, ça faisait d'une certaine façon, ben, qu'est-ce que ça donnait, puis pourquoi il faisait comme ça, puis d'essayer de voir, comme, ben, moi, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, est-ce que je serais pas mieux de le faire autrement pour aller avoir un produit qui est plus à mon goût, tu sais, que moins diacétyl, par exemple, qu'une Lager Check, même si c'est acceptable dans le style. C'est ça. Fait que, c'est de savoir un petit peu c'est quoi les ingrédients qui sont à notre disposition, comment est-ce qu'on peut les utiliser, puis même chose avec les techniques de fabrication, puis comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça qu'on a à notre disposition pour essayer de faire, de réimaginer, faire un produit inspiré de la tradition, mais qui reflète un peu nos préférences et ce qu'on aime, nous autres.
Toi, quand tu travailles dans... Tu fais des nouvelles bières, est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que tu t'en vas voir, disons, Renaud, puis tu parles avec lui, on discute avec d'autres mondes? Comment ça fonctionne quand, disons, tu te lances dans des nouvelles bières, puis tu commences à penser peut-être à des nouvelles formes qui s'en viennent?
Ça dépend beaucoup de... Je dirais que chez nous, on travaille beaucoup par projet, au sens où... c'est toute mon équipe, que ce soit Renaud, que ce soit Ben, mon brasseur en chef, ou toute notre équipe de brasseurs, on est très ouvert aux idées de chacun. Après, la première des choses, tu sais, il y a 2 ou 3 ans, là, tu sais, sortir des nouveautés, c'était quelque chose qui, tu sais, je dirais que le marché carburait à la nouveauté beaucoup plus qu'aujourd'hui. Dans la dernière année, ça a beaucoup changé, ça. Fait qu'aujourd'hui, sortir une nouveauté, c'est d'abord et avant tout savoir ce produit-là, est-ce qu'on a des chances de le vendre ou est-ce que ça va être un flop commercial. Ça, il faut faire très, très attention, beaucoup plus que dans 3-4 ans. Fait qu'à la base, moi, quand on m'approche, que ce soit Renaud, que ce soit n'importe quel autre membre de l'équipe avec une idée, ben, c'est la première question à répondre. Est-ce que cette idée-là, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau de faire une Schwarzbier, par exemple? Tu sais, il y a des styles que j'aimerais brasser, mais qu'on ne brasse pas parce qu'on sait que de la vendre, ça va être trop difficile aujourd'hui. Fait que c'est ça, à partir de ce moment-là, ben c'est souvent la personne qui a amené l'idée qui va prendre le lead sur le projet, sur la recette. Moi, après ça, mon rôle en tant que tu sais, à la base, moi, je c'est ma partie de l'entreprise, un peu, là, la production, mais on va se le dire, tu sais, aujourd'hui, je suis au même titre que Renaud, chef d'entreprise, fait que tu sais, comme toucher l'aspect technique, le day-to-day de la brasserie, je suis de moins en moins là-dedans. Fait que mon rôle pour moi, c'est aujourd'hui davantage de valider un peu chacune des étapes, de goûter au test batch, puis des essais qu'on fait, de déterminer dans quelle direction on veut aller. Puis c'est ça. Puis j'aime être à l'écoute de tout le monde qui participent au processus, parce que c'est ça, j'ai pas la science infuse, puis je trouve que c'est beaucoup plus fun de travailler en équipe dans le développement de produits que d'essayer de tout faire moi-même. Puis, c'est ça.
Et c'est une discussion que tu as des fois aussi entre équipes, mais aussi des fois ce que tu vas parler avec des tailleurs spécialisés, des grandes bannières aussi, des nouveaux produits qui sortent. C'est quelque chose qui s'en vient. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'en vient de plus en plus à parler de ça. T'sais.
Ouais. Oui, définitivement. Je te dirais que de parler à des détaillants, c'est super important pour justement, tu sais, la question de base, c'est genre, est-ce que ça vaut la peine de travailler sur un produit spécifique? Souvent, c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dans un marché où on peut se dire, OK, ben, je vais brasser n'importe quelle bière, puis je vais être capable de la vendre. Puis, tu sais, en tant que brasseur, on a toujours tendance à vouloir faire, en fait, on a souvent tendance à vouloir faire des styles un peu plus obscurs. Mais c'est ça, tu sais, on n'a jamais, autant qu'aujourd'hui, reconnu l'importance de la mise en marché et de l'étude de marché, mettons, en termes de développement de produits. Fait que oui, les discussions avec les détaillants, je dirais que Renaud est beaucoup plus sur la route et en contact avec les détaillants que moi. Bon, je fais mon petit bout de chemin aussi par rapport à ça, mais c'est ce qui est le plus intéressant quand on visite des détaillants, c'est de savoir, ben, eux autres, c'est quoi qu'ils voient, c'est quoi les tendances pour eux, qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend moins bien, puis aussi de parler aux détaillants de... Tu sais, il y a certains produits qu'on fait, nous autres, on a toujours beaucoup aimé faire des produits barriqués, des produits de spécialité qui sont un peu plus dispendieux, qui sont un peu plus niches. Mais ces produits-là, ben aujourd'hui, comment on fait pour les rendre attrayants aux consommateurs? Tu sais? C'est là que de parler aux détaillants, c'est super intéressant.
Est-ce qu'il y a une possibilité, tu sais, je sais qu'il y a une nouvelle mode de plus en plus, ce qui est barriqué, tout ça, il y a du monde, tu sais... C'est bien sûr qu'il y a eu la canette, mais est-ce que de plus en plus, tu penses à des formats 355 pour des canettes comme ça, un peu comme des brasseries comme l'Ermite, des brasseries américaines comme ça? Est-ce que c'est un format que tranquillement, tu y penses pour le côté coût, tu sais, oui, d'avoir les prix comme ça?
Définitivement, tu sais, c'est sûr que on a ces réflexions-là en ce moment. Puis, tu sais, la caisse de 12 de 355 millilitres, tu sais, toutes ces avenues-là, on y réfléchit, c'est sûr. Puis nous autres, en fait, il y a les bières barriquées comme les Stout Impérial en baril de bourbon, mais aussi les bières funky, les bières de fermentation mixte, les sour. Fait que ça, nous autres, en ce moment, on les a en bouteille parce que on trouve que, ben, d'une part, c'est la bouteille est plus adaptée à ce genre de bière-là, mais c'est aussi que c'est des bières qui sont qui ont un potentiel de contaminer notre canneuse. Puis ça fait qu'on a toujours refusé de les passer dans notre canneuse. Mais en même temps, on regarde peut-être aussi les options de canning mobile pour ces produits-là, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. C'est toutes des choses qu'on étudie tranquillement.
Excellent. Mais écoute, merci beaucoup encore pour la barrique parce que ce que vous faites, c'est vraiment excellent.
Merci.
Je suis content tout le temps que j'arrive là-bas, il y a une bouteille qui est là-bas. Tout le monde se connaît, beaucoup de monde te connaît au Québec, mais quelqu'un qui ne connaît pas de la brasserie, quelle sorte de contact number one qu'il devrait penser quand on pense à ta brasserie? Tu sais, quand je te connais pas, tout le monde dit va te voir, mais c'est quoi tu dis à quelqu'un? C'est comme, c'est quoi avant-garde pour un amateur de bière?
Je dirais qu'on a toujours, on s'est toujours forcé pour faire des produits qui sont accessibles, mais qui sont de qualité aussi. Bah, tu parlais de nerd puis de geek puis tout. Effectivement, ça fait partie de nos valeurs de vraiment comme avoir une attention aux détails dans ce qu'on fait, de connaître nos produits puis tu sais de faire les meilleurs produits qu'on peut. Mais aussi, depuis le début, avant-garde, on a toujours cherché à faire des produits qui étaient accessibles, c'est-à-dire qui étaient faciles à boire. En fait, en partant, nous autres, depuis le tout début de la brasserie, un de nos critères pour donner le goût à un produit, c'est quand on en boit une, si on n'a pas envie d'en boire une deuxième, ben, c'est un problème. Il faut qu'on retravaille la recette. Fait que ça fait toujours partie, même dans les bières qui sont plus niches, les grosses bières fortes, barriquées, la buvabilité puis l'accessibilité, ça fait partie de nos valeurs. Puis on essaie, on fait vraiment notre possible pour avoir des produits de la meilleure qualité possible. Fait que c'est ça, on cherche pas à être à faire dans la rareté, où on n'a jamais essayé d'avoir des produits qui étaient trop exclusifs. C'est ça, je dirais, des produits bien faits et accessibles, c'est aussi simple que ça.
Excellent. On revient à côté de brassage. Le choix doublon, c'est bien sûr, chaque bière a son doublon, on travaille différemment comme ça. Mais comment ça fonctionne quand il y a quand tu achètes le doublon pour chacune des bières, tu sais, comment on fait, on développe ça? Est-ce que c'est uniquement par tu sais, des connaissances que tu connais, comment on travaille là-dessus? Mais bien sûr, est-ce qu'il y a un côté aussi, le coût de plus en plus? Tu parlais un petit peu de, on lance plus n'importe quoi pour essayer des affaires. Maintenant, de plus en plus, tu travailles sur des affaires, des short shots, on peut appeler tout de suite. Est-ce que, comment on fait pour choisir le doublon? Comment on fait, on travaille pour être sûr que ça fonctionne? Des nouvelles méthodes, comment tu choisis ça?
Bien, il y a plusieurs facteurs dans ça. Ça dépend des bières qu'on va faire. Tu sais, quand c'est une bière qui showcase vraiment le houblon, ben là, on va aller dans les côtés plus techniques. Tu sais, mettons, on fait une IPA, on veut qu'elle soit juicy et si on fait une New England IPA, par exemple, ben on va choisir nos houblons en fonction de beaucoup de caractéristiques techniques, si on veut. Là, on va aller plus vraiment dans l'analyse des composantes du houblon et on va faire notre choix en fonction de quels houblons sont meilleurs à quel moment du brassage. Après ça, ben, comme ça, on va se faire une idée là, de voici les houblons qu'on peut utiliser en mash hopping, par exemple. Voici les houblons qu'on peut utiliser en whirlpool. Voici les houblons qu'on peut utiliser en dry hop. Puis après ça, bien, généralement, pour des bières plus houblonnées, on va faire des tests jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui nous plaît. T'sais. Après ça, bien, pour une bière qui est plus comme une lager classique, généralement, on va choisir nos houblons. T'sais, on va choisir des houblons classiques qui sont traditionnellement utilisés pour ces styles-là. Des fois, on va regarder aussi, tu sais, les houblons tchèques, il y a des nouvelles variétés sur le marché. Fait de façon générale, si je fais une Pils tchèque, ben je vais tout de suite penser au Saaz parce que c'est le houblon classique. Pour ça, je vais voir s'il y a d'autres houblons, des nouvelles variétés ou des nouveaux hybrides qui pourraient être intéressants à utiliser. Puis, encore une fois, c'est toujours ultimement, là, c'est toujours une question de faire un ou deux tests avant de lancer le produit pour voir qu'est-ce qui est mieux. C'est ça. Fait que je dirais que ça se divise vraiment en deux, là, dépendamment si on veut vraiment maximiser. Tu sais, si c'est une bière qui focus sur le houblon, là, on va vraiment aller chercher le côté technique du houblon, vraiment regarder les composantes qui sont présentes, puis en quelle quantité. Puis sinon, si dans les bières plus classiques, on va généralement aller avec les houblons qui sont classiquement qui sont attribués à ce style-là.
Ça, t'es tout le temps resté d'un doublon qui peut t'aider même à sauver de l'argent un petit peu aussi quand la production quand même.
Ouais. Je dirais que, tu sais, honnêtement, on n'est pas tant rendu à essayer de sauver de l'argent avec le houblon. Pendant un bout, on le faisait avec des contrats, en signant des contrats de houblon pour l'approvisionnement, puis aussi pour les pour sauver de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est trop, y a trop de variétés, puis il n'y a pas assez de, tu sais, il n'y a pas assez de volume à faire avec un seul houblon pour pouvoir que ça vaille la peine de signer des contrats, là, pas à notre grosseur en tout cas.
Est-ce que souvent tu discutes avec les compagnies d'houblons pour savoir le meilleur, ou c'est à chaque année tu te promènes, ou c'est vraiment l'étude en arrière à goûter, à sentir, à goûter d'autres bières, c'est ça le travail que tu fais quotidiennement pas mal?
Ouais, c'est de rester au fait de ce qui se fait, des nouveaux produits qui se font. Bon, on n'est pas une brasserie non plus dont le bread and butter, c'est les grosses IPA. Fait que, on n'est pas constamment dans l'utilisation de nouveautés, de nouvelles variétés. Fait que, c'est ça, on reste au fait de ce qui se passe dans l'industrie. Puis c'est ça, c'est notre choix se fait comme ça, puis on parle aussi à nos représentants, puis à nos contacts chez nos fournisseurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme produit, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est de qualité. C'est beaucoup du travail avec nos fournisseurs aussi.
Moi, une affaire que j'étais fasciné avec vous autres, c'est moi, je vous ai connu vraiment avec la barrique, c'est vraiment des bières fortes, tout ça. Comme je disais, moi, je suis en amour avec un des vos bières noires qui est depuis tout le temps. Mais je suis fasciné, le travail que vous faites, c'est d'aller chercher des saveurs différentes, c'est que ce soit la Pilsner que vous avez fait 7-7, que vous soyez la pétiture à la Goyave, que j'avais jamais pensé que j'allais aimer ça. T'sais. Honnêtement, là, quand j'ai pris à ça, j'étais comme, OK, man, c'est une bière d'été que j'adore, c'est comme quand je commence, quand il fait très chaud, c'est une bière que j'adore. Comment vous travaillez avec le. Parce que l'important de travailler avec ça, c'est aussi travailler avec, bien sûr, avec des levures, en arrière de ça, pour travailler avec des goûts comme ça. C'est quoi l'importance de la levure quand vous faites différentes sortes de gammes de saveurs, quand vous travaillez, comme je dis, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? C'est quoi l'importance d'avoir de la levure à l'arrière de tout ça?
C'est super important, la levure. C'est complexe, là, je te dirais. Pour moi, je suis un gars de levure dans la vie parce que tous les ingrédients sont importants dans la bière, mais pour moi, c'est comme le côté qui me fascine le plus et que je dirais que j'affectionne le plus dans la fabrication de la bière, c'est vraiment la fermentation. Fait que les levures, c'est super intéressant pour nos produits. C'est aussi un des ingrédients qui a le plus de potentiel d'apporter des défauts. C'est ça, tu sais, faut maîtriser la fermentation, il faut respecter la levure, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec la levure aussi, puis c'est pas tous les produits qui sont égaux à ce niveau-là. Puis ça demande quand même du savoir-faire. Pour nous autres, les levures, c'est d'abord et avant tout, pour la plupart des produits, c'est un choix qui est orienté par le style. Fait que, tu sais, si tu brasses une bière anglaise, tu n'utiliseras pas une levure belge, évidemment. Fait que vraiment, comme si tu fais une lager, c'est une levure de fermentation basse. Puis souvent, on va utiliser des souches qui proviennent du pays d'origine de la bière. T'sais. C'est pas toujours vrai pour les bières qui sont plus dans les styles, par exemple les bières aux fruits, où tu peux te permettre d'utiliser différentes choses. Il y a plus de matière à interprétation, mais si tu veux faire une ale anglaise, il faut que tu prennes une souche de levure anglaise, il faut que tu saches la travailler, puis il faut que c'est ça, tu as un certain choix à faire là, au niveau de la souche pour aller chercher les goûts que tu veux, puis la texture. Puis c'est ça. Puis, la levure, ça a vraiment une importance à plusieurs niveaux. C'est sûr que ça donne, ça produit des esters, ça produit des composantes aromatiques qui vont sortir dans la bière. C'est particulièrement vrai pour les levures belges, par exemple, qui vont donner des phénols et des esters de gomme ballon puis d'épices. Mais c'est aussi vrai dans les levures plus subtiles. Mais au-delà de ça, les levures vont avoir un impact aussi sur le côté, sur les céréales, sur le goût de céréales et le goût de houblon aussi. Il y a des levures qui vont laisser ressortir le houblon beaucoup plus que d'autres. Puis il y a des levures aussi qui vont, de la même façon, laisser sortir le côté malté de la bière plus que d'autres. Fait que c'est ça, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Fait que c'est ça, quand on choisit une levure, on commence toujours par se demander c'est quoi le style de bière qu'on veut faire, puis c'est quoi les levures qui sont acceptables d'utiliser pour ce style de bière-là. Puis après ça, viennent toutes les considérations secondaires. Là, je sais que telle souche de levure lager va me donner un petit peu plus de soufre, ce qui pourrait être intéressant pour une pils allemande, par exemple, mais moins pour une pils tchèque, ce genre de choses-là. Fait que c'est ça, c'est du détail. C'est là que je trouve que l'appréciation organoleptique entre vraiment en ligne de compte, à mon sens.
Tu peux me parler un petit peu de ton procédé de fermentation? Comment tu le travailles? Comment ça fonctionne?
Mm-hmm. Ça dépend encore une fois des souches de levure qu'on utilise. C'est sûr que la base de fermentation, c'est d'utiliser assez de levure qui est en santé. Fait que il faut s'assurer que les souches de levure qu'on utilise, puis les procédés qu'on utilise pour la propager sont bons, parce que si tu pitches pas assez de levure, ou si ta levure n'est pas en santé, elle va fermenter lentement, elle va produire des produits dérivés qui sont pas nécessairement souhaitables. Fait que ça, c'est la première des choses. Après ça, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire comme bière, là. De façon générale, moi, j'aime bien fermenter, comme tu sais peut-être, la température de fermentation, c'est une des choses les plus importantes. Des facteurs les plus importants de la fermentation. J'aime bien choisir une température de fermentation qui est optimale pour la levure que j'utilise et commencer plus bas, puis laisser monter sur les premiers jours jusqu'à la température de fermentation et garder ça stable. Comme ça, on a un produit qui est de façon générale un petit peu plus clean. La levure aussi, c'est un organisme vivant. Fait que, comme n'importe quel autre organisme vivant, est sujette à des chocs thermiques, par exemple. Il faut que tu la traites comme il faut. Tu peux pas commencer une fermentation trop chaud, puis comme baisser la température d'un coup. C'est toutes des considérations à prendre. Il faut être doux avec elle. Il faut qu'on y donne des conditions qui sont agréables et pour qu'elle travaille bien.
Quelle sorte d'équipement que tu as chez vous pour que tout soit là bien parfait là-dedans? Comment tu fais pour travailler ça?
On a des... comme toutes les microbrasseries aujourd'hui, là, on a des fermenteurs qui sont évidemment refroidis au glycol. Fait que c'est ça. On a, comme je dis, le contrôle de température est super important. Fait que c'est de s'assurer, quand tu finis ton brassage, que quand tu refroidis ton moût qui vient juste de finir de bouillir, que tu le refroidis à la bonne température, que tu fasses attention pour t'assurer que la température est correcte du moût qui rentre dans le fermenteur. Puis après ça, c'est de mettre la consigne pour que ton fermenteur contrôle vraiment ta température, là, du liquide à l'intérieur. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est juste plus de faire attention.
Il n'y a pas d'équipement weird que tu viens d'inventer, quelque chose comme ça?
Non.
Moi, je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, quelque chose de spatial, quelque chose de vraiment cool, je sais pas.
Non.
Non, rien comme ça, puis le côté sensoriel, c'est le développement d'arômes, tout ça, comment tu le travailles, ça? Est-ce que c'est quelque chose de travail à long terme? Beaucoup des. Comment tu fais ça?
À long terme, oui, dans la mesure où, tu sais, c'est en goûtant que tu deviens bon à goûter, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui se développe tout au long de notre carrière, je pense, en tant que brasseur, c'est de savoir goûter, de savoir qu'est-ce que tu goûtes, de savoir détecter des choses aussi. C'est pas tout le monde qui sont aussi sensibles à toutes les arômes, toutes les composantes potentielles dans la bière, y compris les défauts. Moi, il y a des défauts que je goûte beaucoup, il y a des défauts que je goûte moins. Fait que c'est d'apprendre à les détecter, de les reconnaître, mais aussi apprendre à. Ça, c'est super important, là, c'est de faire de la dégustation en gang, parce que moi, il y a des choses que je goûte pas, puis que quelqu'un de mon équipe va peut-être être plus sensible à ces composantes-là. Fait que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps ici. On s'assure de. Ben, t'sais, c'est sûr que je vais passer, je vais goûter à ce qu'il y a dans les fermenteurs tout seul, je me gêne pas, mais surtout quand on développe des nouveaux produits, on s'assure de toujours goûter en gang, puis d'en parler. C'est important. Puis en parlant aussi, on apprend à mettre des mots sur ce qu'on goûte. Après, c'est aussi de savoir, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps à apprendre, à mon avis, c'est de savoir, ben, OK, j'ai brassé une test batch d'un produit, je sais à peu près à quoi m'attendre, mais là, après la fermentation, je mets la bière au froid, puis elle goûte pas ce que je voudrais qu'elle goûte. Mais est-ce que c'est parce que j'ai mal fait mon travail ou est-ce que c'est parce que la bière a besoin de plus de temps pour se rendre là où on a besoin? Parce que ça, c'est quelque chose de super important. Puis, tu sais, on fait beaucoup de test batch ici. On a un petit système de 100 litres. Puis, aussitôt qu'on a du temps dans notre horaire de production, ben, de façon générale, il y a des test batch qui roulent. Puis c'est ça, on se rend compte que souvent, on n'est pas trop satisfait d'un produit tout de suite après la fermentation, mais avec un peu de temps, les choses se placent. Puis des fois, c'est surprenant à quel point la bière elle évolue vers quelque chose de bon. Puis c'est pas toujours le cas, mais souvent, il faut savoir donner le temps aux choses. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence. Tu me posais la question de comment je décrirais avant-garde. Puis, tu sais, il y a quelque chose dans le milieu de la bière entre les brasseries qui font du volume, puis les brasseries qui font vraiment des produits niches. Souvent, c'est le temps. Qui va faire la différence, le temps que les gens donnent aux produits pour qu'ils arrivent au maximum de ce qu'ils peuvent être. C'est ça qui va faire la différence entre une brasserie peut-être qui ne se soucie pas autant de la qualité ou de la précision des saveurs dans leurs produits. C'est là que la fermentation aussi joue beaucoup, là. C'est quand on a le temps, quand on donne le temps aux produits d'arriver à leur plein potentiel, ça fait une grosse différence sur la qualité en bout de ligne.
Mais en plus, vous autres, dans votre tagline, vous autres, c'est vraiment la bière est un art.
Ouais.
Pourtant, c'est vraiment pour vous, c'est important que le monde sache que c'est la patience du travail à l'aide de ça. Déjà, quand vous allez sur
Exact.
vos pages Facebook, c'est là que vous pensez à ça. Est-ce que tu
Ça, c'est
penses?
la patience, c'est l'attention aux détails aussi. C'est ça, c'est super important.
Il y a quelque chose d'intéressant avec vous autres, si vous avez un restaurant avec vous autres, que ça a changé la façon que vous travaillez vos bières et votre bouffe. Parce que moi, c'est quelque chose, c'est un article que j'ai envie de faire, il y a dans quelques jours, ça en vient. C'est en discuter avec comment on fait au début, quand on s'est connu, tu n'avais pas de restaurant, je m'appelle, c'était pas ça. J'étais une des chanceux d'avoir goûté une des premières pizzas que vous êtes sorti, que je m'appelle, je venais d'une grosse. Je conduisais, moi, une donnée de pizza, puis c'était délicieux, j'ai tout mangé tout seul. Dans l'auto. Est-ce que ça a changé la façon de travailler? T'sais, parce que t'sais, le but, c'est souvent, c'est comme le pairing. T'sais. Est-ce que qu'est-ce qui travaille? Est-ce que la bière est avant la bouffe? La bouffe est après la bière? Est-ce qu'il y a une combinaison que vous travaillez là-dessus? Est-ce que pour nous parler un petit peu de comment ça fonctionne?
Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que on n'a pas vraiment changé nos pratiques de bière, par exemple, en fonction de la cuisine. Je dirais que les deux, je ne veux pas dire que les deux travaillent en vase clos, là, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment un impact entre la cuisine et la brasserie. Du moins, on n'a pas. T'sais, le système de brassage ici est quand même assez gros. On n'a pas
Non.
vraiment le loisir de. T'sais, un brewpub qui fait des batchs de 5 hectolitres, par exemple, je peux voir comment. Il peut y avoir une synergie vraiment plus grande entre la cuisine puis la brasserie. Nous autres, on peut pas se permettre de faire 2 500 litres de bière pour pairer avec quelque chose qui est au menu de notre
Comme une
cuisine. Par contre,
napolitaine, par exemple.
l'inverse est peut-être un peu plus facile là, dans la cuisine. Mais je te dirais que c'est surtout quelque chose qui vient après coup. Là. Tu sais, on a des bières puis on a un menu. Puis là, on voit quel item de notre menu va bien aller avec les bières qu'on sert. Puis après, ben, des fois, comme là, on vient juste de sortir une bière là, qui devrait arriver sur les tablettes dans les prochaines. Ben, évidemment, là, la distribution a déjà commencé, qui s'appelle Cacaophonie, qui est une brown ale impériale affinée en barrique. Et infusé avec du cacao.
Damn.
Puis on voulait lancer ça pour Pâques, là. Fait que on fait un lancement vendredi, là, puis on va avoir justement un menu spécial pour ça. Fait que souvent, on va travailler, tu sais, comme on va sortir une bière, ou pour notre anniversaire, par exemple, on va travailler le menu bouffe en fonction des bières qu'on a en primeur, t'sais. Ça, c'est toujours super intéressant. Parce que, tu sais, les pairings, je veux pas, c'est quelque chose de le fun, c'est super intéressant. Je te dirais que, de façon générale, là, c'est juste qu'on fait des menus spéciaux, là, qu'on va vraiment s'attarder à créer, des recettes pour aller avec la bière, je dirais.
Est-ce que vous travaillez encore beaucoup avec le côté local? Je sais que vous, dans le temps, quand vous avez commencé à lancer votre restaurant, c'est le but de mettre beaucoup de l'emphase au local. Est-ce que vous travaillez beaucoup encore avec la Hochelaga Maisonneuve, tout ça encore?
Oui, quand même, le plus possible. C'est sûr qu'en ce moment, on ne se le cachera pas, là, le coût des ingrédients est quelque
Oui.
chose qu'on regarde particulièrement. Fait que, tu sais, c'est plus difficile d'aller all-in de ce côté-là. Mais tu vois, parlant de local, notre bière au cacao, on l'a faite en collabo avec une chocolaterie locale qui s'appelle Cantou, qui est dans Hochelaga-Maisonneuve, justement. C'est un couple de personnes extraordinaires qui font du chocolat extraordinaire à partir de cacao d'origine unique péruvien. Puis c'est ça, fait que c'était super le fun de travailler avec eux. Bon, le cacao, c'est pas un produit local exactement, mais quand même de travailler avec des gens qui ont un commerce implanté localement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais.
Tu sais, les changements climatiques, ça se peut qu'on ait du cacao ici, hein?
Ouais.
Je disais une compagnie italienne qui faisait pousser du café à Napoli. Parce qu'il fait chaud maintenant. C'est
Ah
comme
ouais, hein?
weird comme ça
Damn.
maintenant. La fois, je lisais un article d'un ami en Finlande ou en Suède qui me disait que maintenant, il y a des vignobles là-bas. Plus de
Ah ouais.
vignobles qu'avant. C'est comme les changements climatiques sont en train de changer. Tout ce qu'on va pousser des affaires de plus en plus. C'est weird comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, le côté, maintenant vous célébrez votre 5 ans, vous avez des petites surprises à part ton affaire au chocolat. Est-ce qu'il y a d'autres produits intéressants qui s'en viennent pour que le monde soit comme qui est courant chez vous, ces bières-là?
Écoute, en ce moment, il y a la bière au cacao qui sort en ce moment, puis on a sorti, en fait, la semaine passée, on a canné notre première Pilsner italienne. Je l'ai mentionné brièvement tantôt, mais ça, je suis super excité de ce produit-là. Vraiment, vraiment bon. Comme je te disais, là, les lagers, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup ici. On n'est pas les seuls. C'est vraiment des bières qui ont le vent dans les voiles, là. Mais la Pilsner italienne, je suis vraiment, vraiment content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une bière qui était, à mon sens, que j'étais aussi content du résultat. je suis super excité pour cette bière-là. Puis je te dirais que c'est, t'sais, on va pas aller all-in dans la nouveauté ce printemps comme on a déjà fait. Le portfolio est assez gros en ce moment, là. On a vraiment gonflé notre portfolio dans les 2 dernières années. Fait qu'on va quand même miser sur les produits qu'on a. On va essayer de gagner du terrain. Puis t'sais, on a vraiment un beau line-up en ce moment, donc je suis vraiment fier. Puis je pense que pour les, t'sais, comme l'avenir proche, ça va être de travailler sur la qualité et la constance des produits. Travailler à attirer le monde aussi au taproom. Ça, c'est, t'sais, on a vraiment un gros espace. C'est quelque chose qui t'sais, c'est un work in progress. Ça demande de l'effort pour t'sais, remplir la place tout le temps. Fait que c'est ça. Je pense qu'on consolide nos acquis, puis on avance comme ça.
Puis vous avez de la lutte, mais en plus.
Oui, mais ça. Mais tu sais, tu vois, c'est exactement le genre de choses, là, la lutte. On a des soirées thématiques aussi avec des soirées de gaming rétro. On travaille sur beaucoup de micro-événements comme ça qui
La samedi famille, la samedi famille, c'est vraiment en cours ce que vous avez fait, non?
Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est ça, c'est. On n'a jamais vraiment eu de menu pour enfants ici. Puis là, on a décidé dernièrement de faire ça. Puis en plus de faire une journée, un après-midi, le samedi, c'est maintenant tous les samedis où les enfants mangent pour 5 $. Fait que c'est ça, c'est un gros hit. Il y a beaucoup de familles dans le quartier ou dans les alentours, pas trop éloignées. On a du stationnement en plus. Fait que les gens, ils sont beaucoup déplacés pour ça. Puis c'est ça, on travaille justement à s'insérer le plus qu'on peut dans la communauté. Puis à tisser des liens avec différents segments de la communauté.
Puis c'est vrai
OK.
que quand il fait chaud, c'est bon. C'est beau la terrasse que vous avez une belle terrasse en plus.
Ouais.
Puis en plus, tu voulais dire quoi en plus?
Ouais, c'est ça. Ben, on travaille sur la possibilité aussi de. Tu sais, nous autres, on roule sur notre permis de brasseur ici. Fait qu'on a le droit de servir la bière qu'on fabrique sur place et rien d'autre comme produit alcoolisé. Mais là, tu sais, les lois ont évolué, les règlements ont évolué au niveau des permis d'alcool. Puis on envisage la possibilité en ce moment de changer notre permis pour pouvoir servir du vin et des cocktails. Fait que ça va être intéressant pour nous autres. Autant j'aime les produits, puis j'aime l'idée de servir juste ce qu'on fait sur place. C'est pas tout le monde qui aime la bière, malheureusement. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le gluten, des intolérances.
Ah ouais.
On n'a même pas le droit ici de vendre des produits sans gluten parce qu'ils sont fabriqués ailleurs. Fait que on travaille sur un plan pour, mettons, compléter notre offre avec des produits. Ben, ce sont des produits qui sont complémentaires à la bière et qui vont permettre aussi d'attirer des gens de tous les horizons. Ouais, c'est ça,
Mais le cocktail, c'est cool parce
un
que
vrai bar de quartier.
le cocktail, ça, moi j'ai su que souvent les brasseries qui utilisent du cocktail, quand ils font bien, ils font même leur cocktail à eux autres, ça, c'est entre 25 à 35 % de leur business souvent que ça commence à venir là. Le monde sont très excités au cocktail. Est-ce que ça vous tentez de, à long terme, bien sûr, vous vous lancez dans le seltzer, dans le gin, dans le whisky, vous lancez des produits comme ça? Parce que moi, je te verrais dans le. C'est pas beaucoup que je te dans le whisky. C'est pas beaucoup. C'est quelque chose que je vois le travail que tu fais souvent, dépendant ce que tu travailles là-dessus, je te verrais là-dedans.
Ouais, ben oui, je suis effectivement un grand amateur de whisky. Puis, mais non, on avait déjà envisagé la possibilité de se lancer dans la distillation, mais c'est vraiment trop difficile comme segment.
C'est pire que la bière, hein, pour l'instant.
C'est vraiment pire que la bière. Puis je me lève mon chapeau aux collègues distillateurs au Québec. Ils l'ont pas facile avec toute la réglementation. Puis c'est ça. Mais écoute, t'sais, si j'avais à le faire, j'aurais un petit alambic ici pour t'sais, produire ce que je peux vendre sur place en cocktail. Ça, j'aimerais vraiment ça. Mais après ça, je pense pas que le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Puis,
En plus, à côté de chez vous, vous avez le Bleu Royal, en plus.
Exact. C'est nos voisins. Fait que c'est ça. Non, je pense plus aller dans cette direction-là, d'avoir des partenariats avec des distilleries qui font des bons produits. Puis, tu sais, il y en a beaucoup de distilleries au Québec. C'est difficile pour eux. Fait que j'aime autant créer des liens avec des gens qui font déjà bien leur travail que d'essayer de me lancer là-dedans.
Puis un seltzer, ça vous tenterait pas un jour faire un petit seltzer quelque part? Oh, je sais que vous voyez son visage à couche là. Je pense pas que ça se t'en vient. C'est pour quand l'anniversaire déjà? Comment vous fêtez ça?
L'anniversaire, ça va être la fin du mois d'avril. J'ai pas de date encore. On travaille là-dessus. Là, le 22, le vendredi cette semaine, on va faire le lancement de la cacaophonie à la brasserie. On va avoir une pizza spéciale avec une sauce au chocolat. Ça va être super, super cool. Fait que c'est ça, mais pour l'anniversaire, ça va être vers la fin du mois d'avril.
Excellent. Dernière question avant de te laisser travailler. Quel conseil tu donnais à quelqu'un qui se lancerait dans la microbrasserie maintenant?
c'est sûr qu'en ce moment, c'est un marché qui est difficile. Moi, on entend beaucoup que le marché, de focusser sur le marché local. Je dirais, mon principal conseil, c'est de ne pas prendre de trop grosses bouchées, je dirais. D'essayer de, tu sais, start small, puis voir où est-ce que ça te mène. C'est sûr que le modèle de microbrasserie taproom, ça fonctionne bien. Tu sais, je pense que c'est là que si tu es capable de vendre le plus possible sur place, c'est mieux. J'entends beaucoup de choses par rapport aux nouvelles brasseries qui se sont établies dans la dernière année puis qui n'arrivent pas à vendre leurs produits en canette. Oh. Ça, c'est une réalité que, tu sais, malheureusement, ces gens-là, ils ont souvent commencé des projets à un moment où la microbrasserie avait le vent dans les voiles. Puis là, ils arrivent à l'aboutissement puis ils se retrouvent dans un marché très, très difficile, très compétitif. Puis, tu sais, malheureusement, en ce moment, les détaillants en bière... ils ont trop de produits sur les tablettes, puis ils cherchent à downsizer, ils cherchent à aller vers des valeurs sûres, des produits, tu sais, ils vendent moins de produits, mais ils vendent plus. Fait que, tu sais, vraiment, on est dans un changement de paradigme, parce que la microbrasserie, toujours, tu sais, dans les 10 dernières années, fonctionne à l'inverse. Puis aujourd'hui, ben, pour toutes les raisons qu'on connaît, là, l'économie qui est difficile, puis mon conseil, ce serait
small is beautiful.
Puis tu sais, se concentrer sur les alentours, puis d'essayer de vendre tout ce que tu peux sur place le plus possible.
Bien, excellent. Écoute, Charles, merci beaucoup pour ton temps précieux, pour ton retour de vacances, même si t'es pas bronzé. T'es pas bronzé partout, mais moi, écoute, on peut dire la pinouille, je me parlais dehors encore, je suis bronzé déjà encore. Écoute, merci beaucoup, Cochon. Bien te voir. J'essaie de te voir un de ces jours parce que ça fait longtemps que je ne vais pas aller payer des bières chez vous. C'est tout le temps intéressant de parler avec vous autres une ou deux heures. So, merci beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, bon anniversaire encore. Bien de goûter à tes bières au chocolat et partout. Puis bien sûr, si vous avez des questions, allez là-bas, visitez votre terrasse avec vous autres. Vous avez plein de plantes dessus. C'est tout le temps cool quand on va vous voir tout le temps. So, merci beaucoup encore. Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, allez avant-garde. Comme Sean a dit, il y a un gros party qui s'en vient avec ça, avec le lancement. C'est des nouveautés qu'on ne sait pas encore. Si vous avez des questions, leonardobaronmag.com. Allez sur notre section de Fermentis. Sur Baron Mag, nous allons voir des trucs pour le brassage, des entrevues qu'on a là-bas. Puis, bien sûr, abonnez-vous à baronmac.com, à notre infolettre, parce que, comme tout le monde, on veut partir de Facebook. Puis, il y a plus de contenu meilleur là-dedans. Il y a plus de monde qui sont là-dedans. Puis, de plus en plus du monde qui m'envoie des courriels. Quoi. Merci encore pour tout le monde. Sean, merci. See you soon. Merci à tout le monde. Et à la prochaine.
Yes. Merci, Léo.